don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
某位男子家，正忙着整理家具。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Sophie Anastasio, Antoine Dulster, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Delphine Lemaire et mise en onde par Tristan Grattalon. Troisième épisode de notre série consacrée à l'Europe, l'Europe édifice en sursis. Nous parlions lundi des menaces qui pèsent sur l'Union européenne. Hier, nous évoquions les évolutions à attendre en matière de mécanique institutionnelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui constitue l'identité européenne. En effet, l'Europe, c'est bien autre chose que des États membres, un conseil, une commission, un parlement. C'est aussi une identité transnationale. De quoi est-elle faite? C'est la question qu'on va se poser ce matin. De l'université au marché du travail, à la recherche d'une identité commune.
Nous avons lancé un programme qui s'appelle Erasmus. Je crois qu'il y a environ 10 millions d'étudiants en Europe. Il n'y en a que 70 000 qui vont faire une partie de leurs études ailleurs, et encore par des accords bilatéraux. Alors nous avons créé ce programme Erasmus, ce qui veut dire que si je veux faire des études de droit, je peux les commencer à Paris, je peux les continuer à Kiel en Allemagne et les finir à Londres ou à Rome, et avoir un diplôme qui sera reconnu comme les autres diplômes.
C'est une opportunité unique pour les étudiants d'étudier dans notre pays et d'apprendre et d'être seul dans notre pays, de langue et tout.
Si je peux commencer à jouer dans des orchestres allemands, ça permet de rencontrer les gens de l'orchestre qui du coup commencent à avoir le visage et puis ce qu'ils peuvent reconnaître ensuite au concours. Enfin, ça permet de se faire un réseau. Voilà, ça me permettra ça, de m'installer durablement, j'espère, sur Berlin, ou en Allemagne en général.
Si je viens en année d'Erasmus, c'est pour découvrir cette méthode d'enseignement, cette culture, tout ça, et pas juste pour faire la fête. Après, si je peux découvrir la ville aussi, je vais pas me plaindre.
Et vous aurez peut-être reconnu la voix de Jacques Delors et puis celle de quelques étudiants européens. Erasmus, le nom de ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes permettant de faire ses études dans un autre établissement européen pour une durée allant de 3 mois à 1 an. Adopté en 1987, il concernait au départ un peu plus de 3000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont désormais plus de 250 000 à poursuivre leurs études dans un autre pays de l'Union européenne. Au total, ce sont près de 3 millions d'étudiants qui ont bénéficié de ce programme. Indéniablement, il aura participé à la promotion du multiculturalisme, de la diversité linguistique, des éléments bien sûr constitutifs de l'identité européenne. Pour autant, Erasmus suffit-il à forger une citoyenneté européenne? Certainement pas, alors que tous les pays d'Europe sont confrontés à des questionnements sur leur identité culturelle nationale, que l'intégration semble un peu partout en crise. On va s'interroger ce matin sur l'identité européenne. Qu'est-ce qui fonde cette identité? Un projet politique dont on sait combien il est en difficulté aujourd'hui et combien il est tiraillé entre forces fédéralistes bien en souffrance en ce moment et forces souverainistes. Des valeurs, le désir d'un vivre ensemble, un modèle multiculturel, plurilingue, une devise commune, un drapeau, une hymne. Dans ce paysage, comment la mobilité aussi participe de cette construction identitaire dans le domaine universitaire, mais aussi dans le marché du travail. Finalement, être européen, n'est-ce pas avant tout jouir d'une mobilité dans un espace géographique donné, en l'occurrence l'Europe? Est-ce que c'est suffisant pour bâtir une citoyenneté forte et durable? Voilà les questions qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Yves Bertoncini. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, think tank donc sur cette Europe. Vous vous intéressez de près et depuis longtemps à ces questions européennes. On fête, Yves Bertoncini, les 30 ans de l'acte unique européen. 17 février 1986, 30 ans tout juste. 12 États membres à l'époque qui introduisaient ces premières dispositions supranationales, les fameuses 4 libertés, libre circulation des marchandises et des services, libre circulation des capitaux, libre circulation des personnes, liberté pour une entreprise de s'installer dans le pays de son choix. Aujourd'hui, Yves Bertoncini, l'actualité nous montre chaque jour, cette liberté de circulation des personnes, elle est mise à mal. La grande menace qui pèse sur l'Union européenne concerne la survie de l'espace Schengen, on en parlait lundi, même si on rappelait aussi que sa suspension, c'est aussi une manière de sauver cet espace Schengen. Votre regard, d'abord, pour commencer, on parlera bien sûr tout à l'heure d'Erasmus, mais sur cette liberté de circuler qui est quand même l'un des piliers, peut-être le premier d'entre eux, de cette identité européenne qui nous intéresse aujourd'hui.
Ce qu'il faut tout d'abord souligner, puisque vous avez rappelé que le programme Erasmus a été lancé à l'initiative de Jacques Delors, c'est que tout ça s'est passé avant la chute du mur de Berlin et que, de ce point de vue-là, l'Europe a beaucoup changé. Et le monde aussi. L'Europe a beaucoup changé parce que cet espace de libre circulation, il s'est étendu à pratiquement tout le continent, et notamment aux pays d'Europe centrale et orientale. Et puis le monde a beaucoup changé parce que le mur étant tombé, la guerre froide a pris fin et l'Europe est aujourd'hui confrontée à d'autres menaces qui sont notamment dans son voisinage, hein, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye. On voit bien que vous avez mentionné l'espace Schengen. Les deux crises au fond auxquelles est confronté l'espace Schengen, c'est la crise terroriste, enfin c'est même pas une crise, c'est une menace terroriste qui prend sa source notamment en Syrie, à Khmi, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et puis l'afflux migratoire exceptionnel de demandeurs d'asile qui fuient ces foyers de crise. Alors le paradoxe, effectivement, c'est que dans ce contexte-là, dans un contexte où, face à des crises externes, parce que le monde n'est plus aussi calme que juste après la chute du mur, où les Européens ont cru à un monde pacifié, stable, plat. Le paradoxe, c'est que, alors qu'il faudrait plus d'union, parce que l'union fait la force, et que sinon, sans union, l'Europe est ballottée par les crises qui surviennent à quelques heures d'avion à peine de ses principales capitales, il y a d'autre part un mouvement, une forme de repli sur les frontières nationales. Dans ce contexte, il y a des effets adverses, je dirais, des forces qui vont s'exprimer de plus en plus contre ce mouvement de repli sur les frontières nationales. Pourquoi ? Parce que Erasmus, c'était simplement un programme avant-coureur, mais vous avez mentionné les 30 ans de la signature de l'acte unique européen, qui consistait à appliquer ce qui avait été décidé bien avant, hein, à Rome, le traité de Rome. Ça a quand même engendré un flux de marchandises, de services, mais aussi un flux de personnes quotidiennement, dans chaque pays, et y compris en France. Et ces personnes-là, les travailleurs routiers, les travailleurs frontaliers, les jeunes, naturellement, les hommes d'affaires, sont en train, et c'est utile, de démontrer que le retour à des contrôles systématiques aux frontières nationales aurait aussi un coût qui est lié à tous les progrès qui ont eu lieu dans l'interdépendance, l'intégration de nos économies et de nos sociétés depuis une trentaine d'années.
On verra tout à l'heure comment effectivement cette mobilité dans le marché du travail, ces migrations intra-européennes jouent dans cette construction de l'identité européenne. Mais pour poursuivre un petit peu sur cette question de la libre circulation, cette crise de l'espace Schengen, ce degré d'ouverture aussi de l'Union européenne, il y a beaucoup de débats pour savoir si l'Union européenne doit donner la priorité à l'accueil des réfugiés et à leur intégration, ou si au contraire, il faut mettre l'accent sur le contrôle des frontières extérieures pour endiguer les flux de migration. Jusqu'ici, l'Europe semble finalement déficiente sur les deux volets. On le voit bien sur son incapacité à appliquer le fameux accord de mécanisme de répartition qui avait été mis en place en septembre dernier. Je rappelle, on s'était mis d'accord sur 160 000 réfugiés à répartir sur l'ensemble de l'Europe. On est à peine 1000, donc on peut parler véritablement même pas d'un échec, mais d'un fiasco. Et de l'autre côté, on voit aussi que Frontex, finalement, est incapable de contrôler ses frontières, à tel point d'ailleurs qu'on en appelle même à l'OTAN. Quelle devrait être, selon vous, Yves Bertoncini, la posture de l'Europe entre cette nécessité de rester ouverte, à la fois sur ses frontières intérieures, mais aussi ouverte sur le monde, et cette nécessité de ralentir une vague de réfugiés dont même les Allemands commencent à s'apercevoir que leur intégration demande des moyens qu'ils ne semblent pas disposés ou en capacité de mettre sur la table?
Je crois qu'il y a un enjeu d'identité européenne. Face à ces réfugiés. Que nous a dit Angela Merkel? Nous sommes des Allemands, nous sommes des Européens, donc face à des demandeurs d'asile qui sont des victimes, nous devons examiner leurs demandes et accueillir les réfugiés qui le méritent. Naturellement, il faut aussi ne pas accueillir ceux qui ne le méritent pas. L'Europe a besoin de migrants économiques, mais pour ça, il y a des voies légales. Donc ceux qui se présentent aux frontières de l'Union européenne sans avoir titre à y entrer, doivent être renvoyés. Mais pour les autres, les demandeurs d'asile, Angela Merkel, en montrant l'exemple, nous a dit, voilà, ces gens-là ne sont pas des menaces, mais ce sont des victimes. Alors, premier problème identitaire, pour certains pays d'Europe, notamment en Europe centrale, ce sont plutôt des menaces que des victimes. Donc là, il y a un enjeu sur qui nous sommes. Pas seulement qui sont ces demandeurs d'asile, mais qui nous sommes, nous. Nous, les Européens, est-ce que l'Europe ressemble à Lampedusa ou à Lesbos, c'est-à-dire de petites îles pauvres? Ou est-ce qu'elle ressemble plutôt à l'Allemagne, c'est-à-dire un grand espace riche et qui a tout à fait les moyens d'accueillir une certaine proportion des demandeurs d'asile, dont d'ailleurs la grande majorité reste à ce stade au Proche-Orient, notamment en Turquie, en Jordanie, au Liban. Alors évidemment, je ne reviens pas sur tout ce qu'il faut faire en amont, c'est-à-dire notamment auprès de ces pays comme la Turquie, alors c'est en cours, et puis même à la source...
C'est en cours avec assez peu de résultats quand même. Hein.
Dans des pays comme la Syrie. Mais là, ce que ça montre, c'est simplement ce que j'évoquais au préalable, c'est que l'Europe est désarmée. Vous avez mentionné l'intervention de l'OTAN. Oui, les Européens ont cru, après la chute du mur, qu'ils pouvaient désarmer. Mais aujourd'hui, si les Américains ne sont pas là, et ils sont de moins en moins là, ils sont désarmés face à des crises qui ne concernent pas vraiment les Américains. Ils ne sont pas en première ligne, ils sont loin, et qui sont dans notre voisinage. Donc là, il y a ce premier point, cette première priorité, qui est une priorité extérieure. Mais pour autant, vous l'avez dit, la crise de l'espace Schengen est en train de dégénérer parce que ça a mis à jour, un peu comme la crise de la zone euro d'ailleurs, un déficit de confiance et de solidarité entre des pays qui partagent, non pas la même monnaie cette fois-ci, mais le même espace de libre circulation. Le déficit de confiance, il faut le réduire, ça c'est ce qui se passe en ce moment avec les hotspots, Frontex, le corps européen de garde frontières. On va dire, si on veut être positif, que c'est en cours, mais surtout il y a une course contre la montre entre ça, hein. Réduction du déficit de confiance à nos frontières extérieures, européanisation du contrôle, ou alors retour temporaire qui est possible, à condition qu'il ne s'éternise pas, aux frontières internes. Il faut bien, je termine là-dessus, dissocier cela, ces points-là, de la libre circulation. La libre circulation, elle est offerte aux citoyens européens qui sont dans l'espace de libre circulation. Ça concerne pas seulement l'espace Schengen, d'ailleurs ça concerne aussi les Britanniques, et d'ailleurs ils s'en plaignent visiblement. Dissocier cela de la migration. La migration, ce sont ceux qui viennent de l'extérieur. C'est certainement utile puisque l'Europe vieillit, rétrécit. Les demandeurs d'asile étant un cas particulier, puisque s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas de demandeurs d'asile.
Crise de l'espace Schengen, crise de la zone euro. Quel lien est-ce que vous établissez entre les différentes crises traversées par l'Union européenne et nos difficultés à les résoudre? Et puis, notre difficulté surtout à concevoir cette identité européenne. Finalement, si on a tant de mal à affronter ces crises, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a toujours pas trouvé cette identité commune, ces références communes, ces valeurs communes? Vous disiez tout à l'heure, Angela Merkel disait, nous sommes des Allemands, nous sommes des Européens. D'abord, on considère tous effectivement que nous sommes d'abord soit Allemands, soit Français, soit Italiens, soit Espagnols avant d'être Européens. Et précisément, on a le sentiment que ce sentiment d'être européen, il est encore extrêmement marginal. Il est peut-être fort chez une femme comme Angela Merkel, mais en réalité, elle ne représente pas les Européens.
Elle ne représente pas les Européens. Vous avez raison d'utiliser le mot « représenter » parce que ça nous renvoie aux systèmes politiques qui sont nationaux. Alors Jacques Delors, qui a lancé le programme Erasmus, a aussi lancé un concept un peu plus tard, celui de fédération d'États-nations. Mmh. C'est ça qui décrit
l'Europe. C'est un oxymore quand même. Hein.
On n'est pas. Oui, mais en même temps, ça représente ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire des États-nations, pour certains d'ailleurs très fragiles, mais en tout cas des États qui ont décidé de former une union dont la légitimité est fondée sur ses États membres et sur les citoyens. Il y a une double légitimité. Pour être citoyen de l'Union européenne, il faut être citoyen d'un des États membres. C'est parce que nous sommes Français que nous sommes citoyens de l'Union européenne. La citoyenneté européenne n'est pas une oblitération de la citoyenneté nationale, c'est quelque chose qui s'ajoute à la citoyenneté nationale. On pourrait dire que c'est un supplément d'âme. Alors, pourquoi ce supplément d'âme fait-il défaut hors de quelques cercles europhiles? Parce que il y a un réflexe de retour aux frontières nationales ou à l'État-nation quand des crises surviennent. C'est assez singulier d'ailleurs parce que si on regarde la France, on avait construit une ligne Maginot, on voit bien qu'elle n'a servi à rien. Face aux terroristes, ça ne sert absolument à rien, hein, le contrôle aux frontières, on n'arrête pas les terroristes aux frontières, mais c'est vrai que dans les imaginaires, il y a cette espèce de réassurance liée aux bonnes vieilles frontières nationales, aux bons vieux États-nations. Je crois qu'il y a aussi des liens avec le système politique, je le disais. Il n'y a pas de président de l'Europe. Madame Merkel, elle sera désignée par des Allemands. François Hollande ou son successeur par des Français. Donc les vies politiques sont nationales. Mais dernier mot, parce que ça c'est à mon avis le plus important, il y a un déficit dans le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Ce qui donne un sens à l'identité européenne, c'est de regarder le monde. Le monde dans lequel nous ne sommes plus que 7%. 7%. Bientôt 6, bientôt 5, nous les Européens. Et le monde vu duquel nous existons comme Européens. Vu voilà, de Brasilia,
c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une chose qui est frappante.
Nous existons.
Il y a une chose qui est frappante, c'est que cette identité européenne, finalement, elle fait plus défaut à l'intérieur de l'Union. Mais bon, d'ailleurs, il suffit de regarder. L'identité, c'est bien sûr une chose fluctuante. Quand vous êtes parisien et que vous allez à Lille, on vous voit comme un Parisien. Mais si vous allez en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, on vous voit comme un Français. Et si vous allez aux États-Unis ou en Afrique du Sud, on vous voit là comme un Européen.
Absolument. Et d'ailleurs, la mobilité à l'extérieur de l'Europe est presque plus formatrice d'une forme d'identité européenne. En tant que Français, en Allemagne, on se sent Français. En tant que Français en Californie, moi j'en ai fait l'expérience, on se sent européen parce qu'on rencontre d'autres compatriotes, si je puis dire, européens. Il y a un enjeu majeur, y compris au niveau des leaders politiques. Est-ce qu'ils regardent davantage le monde? Est-ce qu'ils montrent le monde, si je puis dire, à leur population? Parce que c'est dans cet horizon mondial que l'identité européenne peut prendre sens et forme.
Vous parliez de Jacques Delors?
Vous savez que lorsque certains ont décidé d'unir les efforts de nos pays européens, leur principale préoccupation, c'était plus jamais la guerre entre nous. Et aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est la survie ou le déclin de l'Europe. Nous sommes considérés comme des gens qui ne sommes peut-être plus les plus puissants, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, mais qui avons une certaine conception équilibrée des rapports entre la société et l'individu. Quand j'ai été nommé président, il fallait que je trouve un sujet de relance pour l'Europe, car celle-ci était enfoncée dans les querelles de famille. Il y en avait trois. La monnaie, la défense ou un grand marché. Il s'est trouvé que le sujet sur lequel il y avait l'accord le plus large, c'était le grand marché. Mais ça intéresse aussi les citoyens, c'est-à-dire pouvoir se promener dans toute l'Europe sans avoir à franchir des frontières, pouvoir s'inscrire à l'université que l'on veut. Et puis ça intéresse aussi les artistes. Le grand marché, c'est tout ça.
C'est tout ça, ça intéresse les artistes et ça intéresse aussi les étudiants. Finalement, il y a aussi un grand marché de l'enseignement supérieur. Jacques Delors, ici, dans les actualités sur France Inter en 1986. Jacques Delors, c'est un des hommes qui a lancé, qui a permis justement ce programme Erasmus dont je parlais tout à l'heure dans mon introduction, programme d'échange. Donc, vous pouvez aller dans un établissement européen pour une durée de 3 mois à 1 an. Il a été adopté l'année suivante, en 1987. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le contexte dans lequel on met en place ce programme, et puis nous dire ce qui fait qu'à ce moment-là, on le lance. Parce qu'en fait, l'idée d'une coopération dans le domaine de l'enseignement, il existait depuis les années 70, mais on ne parvenait pas à le mettre en forme. Et c'est avec l'arrivée de Jacques Delors à la Commission que les choses vont se concrétiser finalement. Qu'est-ce qui bloquait et qu'est-ce qui va faire que finalement on va parvenir et on va vouloir le mettre sur pied à ce moment-là?
C'est l'acte unique européen, l'idée de créer un marché unique. Ça fournit, si vous voulez, une base juridique et aussi un élan politique, puisque Jacques Delors l'a dit. Il aurait bien essayé de faire autre chose. Bon, il a d'ailleurs réussi à faire la monnaie unique dans un second temps. Il aurait volontiers fait la défense européenne, sauf que le consensus, y compris de nos amis britanniques, s'est porté sur le marché unique, c'est-à-dire réaliser Rome, puisque, je le rappelle, les quatre libertés sont inscrites dès 1957 dans le traité de Rome. Donc, puisqu'il faut favoriser la libre circulation des services, des personnes, des capitaux et des hommes et des femmes, l'idée c'est de dire, bon, écoutez, pour que les travailleurs futurs puissent être mobiles, il faut que dès la période de leur formation, et notamment universitaire, ils puissent déjà l'être, parce que c'est comme ça qu'ils vont améliorer leur capacité linguistique et puis aussi leur capacité d'intégration dans un autre marché du travail. Quand vous avez étudié pendant 1 an en Allemagne ou en Espagne, ça vous rend beaucoup plus employable dans ce pays-là. Ça, c'est l'idée, j'allais dire, première.
À laquelle tout le monde n'adhère pas, à l'époque, notamment Margaret Thatcher.
Alors, vous avez raison de signaler cela, mais ça renvoie à une autre idée, qui n'est pas une idée romaine, si je puis dire, en référence au traité de Rome, qui est plutôt une idée athénienne, c'est-à-dire en référence à la citoyenneté, parce qu'évidemment que Jacques Delors a une autre idée derrière la tête, si je puis dire. C'est aussi d'encourager la citoyenneté européenne. Et c'est là que Margaret Thatcher, Jacques Delors l'a raconté, y compris dans ses mémoires, objecte. Parce qu'elle dit, d'ailleurs c'est singulier, avant la chute du mur, vous voulez créer un homo europeanus, comme d'autres ont voulu créer un homo sovieticus, il n'est pas question qu'on vous laisse faire ça. Et Jacques Delors lui dit à ce moment-là, écoutez, Très bien, nous allons donc sortir de cette salle et puis j'annoncerai aux médias avec vous qu'il y a un veto britannique et nous ne le ferons pas. Et Margaret Thatcher lui répond, écoutez, faites-le, de toute façon ça n'aura pas grande importance, faites-le. Alors c'est très symptomatique tout de même cet épisode, parce que ça veut bien dire, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que ces programmes de mobilité sont axés, fondés sur une rationalité d'abord économique. Quand on regarde aujourd'hui, d'ailleurs, le programme Erasmus, dans sa nouvelle mouture, vous pouvez regarder les objectifs, c'est la compétitivité de l'Europe, la libre circulation des travailleurs, vous ne trouverez pas, sauf erreur de ma part, hein, j'ai relu encore ce matin, le mot citoyenneté. Mais évidemment, il y a l'espoir secret que ça puisse aussi engendrer une forme de citoyenneté européenne, qui, je le répète, n'est pas une oblitération des citoyennetés et des identités nationales, mais c'est un prolongement, un supplément d'âme, qu'on retrouve très bien d'ailleurs dans les étudiants qui notamment ont fait le programme Erasmus, mais bien au-delà, tous les étudiants qui vont voyager ou qui vont étudier à l'extérieur.
Qui a eu raison de Jacques Delors et de Margaret Thatcher? Est-ce que l'homo europeanus est né avec ce programme Erasmus? Est-ce que Erasmus participe vraiment à la construction d'une citoyenneté européenne?
Ça va au-delà d'Erasmus, hein, je l'ai dit.
Mais sur Erasmus, sur le cas d'Erasmus, est-ce que l'expérience Erasmus consolide, fabrique, construit une identité européenne?
Une forme d'identité européenne fondée sur l'unité dans la diversité. Bon, il y a un film emblématique que je vais avoir le plaisir de citer, L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche.
Bien sûr.
On voit bien ce que c'est de ce point de vue-là, l'identité européenne, c'est-à-dire des Européens qui sont tous porteurs d'une identité propre, qui se retrouvent d'ailleurs à Barcelone, ce n'est choisi pas au hasard, dans une région de l'Espagne qui, elle aussi, a des questionnements identitaires, y compris linguistiques, et qui, étant français, étant espagnol, étant anglais, étant belge, même si l'actrice belge s'appelle Cécile de France, mais en tout cas, se confrontent, regardent, constatent ce qui les différencie, mais aussi ce qui les unit. Donc, de ce point de vue-là, oui, au-delà même d'Erasmus, au-delà même des étudiants, qui d'ailleurs aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux, sans bourse Erasmus à étudier, parce qu'ils l'ont choisi, il y a cette forme d'identité européenne.
Mais l'auberge espagnole de Cédric Clapiche, elle ne représente pas toutes les expériences Erasmus. Il y a aussi des étudiants qui vous disent qu'au contraire, eh bien, ils considèrent, eux, que ça exacerbe les nationalistes, parce qu'on a tendance à se regrouper par nationalité. Ça ne fonctionne pas toujours.
C'est en cela qu'effectivement...
Ensemble des étudiants d'Erasmus, ce n'est pas toujours la règle.
Oui, mais vous savez, le vivre ensemble des étudiants dans n'importe quelle université française, qu'ils soient français ou pas, n'est pas toujours la règle. On se regroupe par affinité, parfois par nationalité, parce qu'on est loin de chez soi, et donc il y a aussi un besoin de se retrouver entre compatriotes portant le même passeport, si je puis dire, même s'il y a un passeport européen, mais enfin la même carte d'identité nationale. Mais c'est en cela que
l'expérience... C'est important parce que ça veut dire que c'est un caractère.
Absolument, mais c'est en
cela. Le vivre ensemble, c'est un caractère. Être européen, c'est un caractère.
Absolument, mais c'est en cela que l'expérience d'une expatriation en dehors de l'Europe est peut-être encore plus porteuse d'une forme d'identité européenne. Moi, je me suis découvert européen la première fois à Berkeley, parce qu'à Berkeley, en Californie, les Européens étaient les seuls à regarder la Coupe du Monde de football en 1990. Les Américains s'en moquaient complètement, les Asiatiques aussi. S'il y avait eu des Africains, peut-être qu'ils seraient venus regarder avec nous, mais ils n'étaient pas là. Et donc, on regardait tous ensemble la Coupe du Monde de football, sur d'ailleurs la chaîne hispanique californienne, parce que les chaînes américaines s'en moquaient aussi. Et nous nous sommes découverts européens. Et vous voyez, moi, je le regardais vraiment comme européen, cette Coupe du Monde de football, parce qu'en plus, la France n'était même pas qualifiée. Mais pourtant, en tant qu'Européen et amateur de football, ça m'intéressait. Et à un moment, on s'est retourné, et à chaque match, on en rigolait. Qui est autour de la table? C'était dans une International House, donc tout le monde pouvait venir. Qui venait? Les Européens. Et nous nous sommes découverts, et là nous nous étions regroupés entre Européens. C'est d'ailleurs, si vous permettez, ce que l'Union Européenne a bien compris, parce que justement dans la multiplication des fonds dédiés au programme Erasmus, là il y a quand même eu une multiplication par 3 ou 4, il y a eu aussi une volonté, Erasmus Mundus, d'étendre la mobilité vis-à-vis du reste du monde, des habitants du reste du monde, des étudiants qui viennent en Europe et des étudiants européens qui partent dans le reste du monde. C'est fait pour des raisons économiques, là encore, mais de ce point de vue-là, du point de vue identitaire, ça pourrait avoir des effets performatifs plus grands, même si ça restera une élite assez limitée.
Vous parliez, Yves Bertoncini, d'un élan politique auquel a participé, bien sûr, Jacques Delors. c'est évidemment un élan politique, c'est l'engagement des politiques qui va permettre la mise en place d'Erasmus, mais c'est aussi un engagement citoyen. Faut rappeler aussi le rôle de l'Association des États généraux des étudiants de l'Europe, cette association qui a beaucoup œuvré pour cette concrétisation des engagements politiques. En quelques mois, c'est des milliers d'étudiants de partout en Europe qui vont adhérer. C'est 10 000 étudiants qui très rapidement vont se regrouper autour de Franck Bianchieri, qui par la suite est devenu un homme politique. Il a été président de New European, ce mouvement européen transnational, mais au départ, son engagement, il se fait en dehors de toute institution, en dehors de tout parti, et il révèle cet engagement de la société civile.
Qui est déterminant depuis le départ. Ouais. C'est aussi ce que, d'ailleurs, la Commission européenne a toujours essayé de faire, c'est-à-dire toucher la société civile ou des acteurs bien particuliers pour les fonds régionaux, les collectivités locales, par exemple, pour les programmes d'échange. La société civile, mais aussi, je dirais, les établissements d'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur qui se sont transformés sous impulsion européenne avec Erasmus, qui se sont ouverts, qui se sont internationalisés parce qu'il y avait des financements européens qui le leur permettaient. Alors ensuite, ce qui a été très déterminant, et ça, c'est pas né dans le giron de l'Union européenne, c'était le fameux processus de Bologne, d'ailleurs né à la Sorbonne, qui a conduit à réorganiser l'enseignement supérieur avec trois niveaux, licence, master, doctorat. Et une fois que l'Union européenne, en tout cas une initiative européenne, hein, d'abord État membre et puis ensuite européanisée, a permis cela, ça aussi, ça a encouragé, ça c'est une clarification du cadre juridique, mais à la fois des décisions juridiques, comme au moment de l'acte unique d'ailleurs, et puis des soutiens financiers, ça permet à tous ces acteurs qui ne demandent pas mieux de se mobiliser, et puis de continuer à se mobiliser. Vous avez cité quelques organisations, d'ailleurs bien au-delà de cette expérience de mobilité, parce que justement, c'est une expérience qui les aura marqués. Et ensuite, de ce point de vue-là, ça en fait des citoyens européens au sens politique, c'est-à-dire des citoyens qui ne s'intéressent pas qu'aux affaires politiques de leur ville, de leur région ou de leur nation, mais aussi aux affaires politiques de l'Union européenne, dont on débat d'ailleurs de manière très vive ces derniers temps.
Mais au fond, le succès d'Erasmus, il dépend aussi de la bonne volonté des établissements. En réalité, la mobilité étudiante, elle est peut-être moins le résultat, mais vous allez me le dire, Yves Bertoncini, du programme Erasmus lui-même, que des efforts qui ont été produits par les écoles, par les universités, pour accueillir des étudiants étrangers, et peut-être en dehors du programme.
Oui, et là-dessus, il faut le dire, et c'est encore plus vrai pour les programmes qui concernent des mineurs, hein, parce qu'il y a des programmes pour les lycéens aussi, programmes pour les collégiens. Et il faut rendre hommage aux adultes, parce que, alors, c'est totalement vrai dans la mobilité des mineurs, c'est les adultes qui l'organisent. Un mineur, il ne va pas aller tout seul au niveau transfrontalier, étudier à l'extérieur ou partir même ne serait-ce qu'une ou deux semaines avec sa classe. Derrière les mineurs, il y a aussi les parents. Il faut que des parents acceptent de laisser partir leurs enfants parce qu'ils vont considérer que c'est une expérience profitable. Il peut y avoir aussi des enjeux matériels parce que même s'il y a des bourses européennes, elles ne sont pas très élevées. Mais en tout cas, si on en revient aux établissements d'enseignement supérieur, oui, et d'ailleurs, on l'a bien vu dans la façon dont Erasmus s'est développé, il y avait du volontarisme plus ou moins prononcé selon les établissements. Il y a des établissements, si vous regardez les instituts d'études politiques par exemple, il y a des établissements qui ont été pionniers, qui se sont tout de suite emparés d'Erasmus et qui ont organisé des programmes d'échange. Ben moi, c'était dans ce cadre-là que j'ai eu la chance en 90 de partir aux États-Unis. Et d'autres, je pense à Sciences Po Paris notamment, qui l'ont fait un tout petit peu plus tard, sous l'impulsion de Richard Descoings. Et donc, il y avait aussi vraiment un volontarisme des adultes. Ce que l'Union européenne pouvait faire, c'est vraiment créer un cadre juridique, un cadre financier propice. Mais encore aujourd'hui, il faut que soit des étudiants majeurs prennent la décision, parce qu'ils sont majeurs, faut-il encore qu'ils aient une forme d'approbation. Je peux imaginer des parents et parfois aussi un soutien matériel, sauf à ce qu'ils travaillent en plus de leur bourse. Mais en tout cas, pour tout le reste, nous avons proposé par exemple à l'Institut Jacques Delors un Erasmus Pro, donc, c'est-à-dire un Erasmus pour les apprentis. Là, on est sur des mineurs et là, on est dépendant de la bonne volonté des enseignants, des filières,
et puis des entreprises,
des
surtout des
là,
entreprises,
des entreprises qui les emploient.
Parce que vous avez raison, c'est une proposition que vous avez faite, c'est aussi cet Erasmus de l'apprentissage, c'est aussi un projet qui est porté par l'ancien ministre Jean Arthuis, devenu
absolument
eurodéputé. Est-ce qu'il faut aller vers une intensification de cette coopération en matière d'éducation? Est-ce qu'il faut l'élargir à l'apprentissage? Et est-ce qu'on ne risque pas aussi de se retrouver devant des obstacles très importants, à savoir des entreprises qui finalement n'auraient pas envie, parce qu'ils n'auraient pas intérêt à jouer le jeu?
Absolument, c'est plus difficile au niveau des mineurs, hein, je le rappelle, parce que, mais ne serait-ce que pour des raisons psychologiques. C'est, c'est pas facile de partir de chez soi dans un autre pays de l'Union européenne quand on a 14 ans ou 16 ans. C'est plus difficile pour les apprentis parce qu'effectivement, il y a des enjeux économiques. Là, pour le coup, ils sont dans une structure de production, si je puis dire. Et donc, c'est plus facile au niveau de l'enseignement supérieur. Simplement, Erasmus Pro a encore deux objectifs. On retrouve toujours les mêmes. Mais le premier, c'est s'attaquer au chômage des jeunes, d'essayer d'utiliser les bonnes pratiques dans des pays, notamment l'Allemagne, où là, pour le coup, le chômage des jeunes est beaucoup plus faible. Et puis aussi, certainement, un objectif qui consiste à élargir ces expériences européennes au-delà des étudiants du supérieur.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour de l'Europe, édifice en sursis aujourd'hui de l'université au marché du travail à la recherche d'une identité commune. On est avec Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. On parlait du monde étudiant, on va aller du côté du marché du travail, se demander si cette mobilité, elle serait moteur d'identité. Les années 90-2000 se sont accompagnées bien sûr de vagues migratoires très importantes qui ont mélangé le continent. Des populations notamment d'Europe centrale sont allées vers l'ouest à la faveur de l'intégration européenne et puis d'autres vagues migratoires se sont enchaînées depuis, direction la Pologne.
Le marché du travail valorisera dans le futur la mobilité des gens. Et je pense que les Polonais doivent tenter de jouer cette carte-là.
Je voudrais juste trouver un boulot, peu importe que ce soit ici ou là-bas. Mais ici, c'est vraiment très difficile.
Ma fille est infirmière, mais elle n'a pas pu trouver d'emploi ici. Alors elle est partie.
C'est bien de partir. En émigrant, on peut se développer, gagner de l'argent et l'investir. Moi, j'ai investi dans les outils de menuisier, par exemple.
D'un côté, c'est bien que les gens ramènent des sous de l'étranger. Du coup, il y a au moins un peu d'activité ici. Oui, justement, c'est grâce à eux que nous avons encore du travail. Mais d'un autre côté, c'est triste. Les jeunes partent avec leurs enfants.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur France 24. Au moment de l'élargissement à l'Est, de nombreux Polonais sont partis trouver du travail à l'Ouest. Et si la crise a un petit peu ralenti le phénomène, il perdure quand même malgré tout. La Pologne reste l'un des pays où l'émigration est la plus forte. On va retrouver Aurore Flipo, qui est sociologue, auteur d'une thèse intitulée « Les migrations de travail intereuropéennes, jeunes Polonais et Roumains dans les milieux ruraux au Royaume-Uni et en Espagne ». Vous êtes intéressé, Aurore Flipo, en particulier donc à ces Polonais et aux Roumains. L'une des spécificités, disons, des vagues les plus récentes concerne leur implantation géographique. Justement, cette nouvelle migration, elle s'est moins concentrée dans les grandes villes. Beaucoup d'immigrés s'installent désormais également dans les zones périurbaines, voire même à la campagne, ce qui modifie bien sûr considérablement les problématiques d'intégration.
On a beaucoup moins une concentration dans les grandes métropoles, c'est-à-dire dans les capitales. Donc pour les pays que moi j'ai étudié plus particulièrement Londres et Madrid, et une plus grande dispersion sur le territoire, une dispersion qui correspond pratiquement à la dispersion de la population générale en fait. Donc oui, en effet, on est amené à rencontrer ces migrants aussi bien à la campagne que dans des villes périphériques.
Et évidemment, Aurore Flipo, l'une des choses que ça change, c'est que dans certaines de ces régions, ces migrants ont participé d'une forme de redynamisation de ces territoires qui avaient été un petit peu abandonnés. Finalement, ils vont recréer du lien social, ils vont construire peut-être une nouvelle identité dans ces régions où ils s'installent.
Alors oui, en effet, dans certains endroits, on peut le constater, en particulier dans certaines régions d'Angleterre ou d'Écosse, qui était un peu déserté et où on avait un gros déséquilibre démographique avec un vieillissement de la population, l'arrivée de nouveaux migrants, souvent jeunes, a contribué à équilibrer un petit peu cette population d'un point de vue démographique.
Est-ce que, justement, pour les pays d'accueil, le fait que ce soit des migrants européen, ça change la donne. Est-ce que dans la perception, on établit une différence, disons, entre la migration intra-européenne et les autres migrations ?
Honnêtement, pas tant que ça, je ne pense pas. La perception de la migration, elle est très dépendante du contexte économique, principalement, et aussi bien on peut avoir des réactions très positives et très chaleureuses à l'endroit des Roumains et des Polonais, ça a pu s'observer, mais aussi des réactions d'hostilité. De la même manière, l'accusation de voler les emplois s'est aussi retrouvée à l'endroit des Roumains et des Polonais.
Et vous voyez un lien direct avec la santé économique des pays ?
Eh bien, il est clair que les migrants étaient mieux acceptés avant la crise qu'après la crise. Donc on peut voir qu'il y a quand même une influence Pas seulement, je pense, de la situation économique en tant que telle, mais aussi simplement de se projeter dans une société qui est en expansion, qui est en croissance, comme ça a été le cas au début des années 2000, que ce soit au Royaume-Uni ou en Espagne, ou de se projeter dans une société où on a l'impression qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et qu'il faut faire des choix, comme c'est le discours qui a été quand même construit autour des politiques d'austérité et qui, fatalement, s'est répercuté dans les sociétés en question.
On s'intéresse ce matin au rapport entre mobilité et identité. Vous êtes intéressé en particulier aux Polonais et aux Roumains. Dans quelle mesure est-ce que le parcours migratoire des personnes que vous avez rencontrées joue-t-il sur leur identité européenne ? Est-ce que le fait qu'ils se situent dans un espace où la libre circulation est possible et où ils jouissent de cette possibilité, est-ce que c'est un élément constitutif de leur identité plus important, vous semble-t-il, que lorsqu'on a affaire à des personnes finalement qui travaillent dans leur pays où ils sont nés?
Alors, oui, clairement, il y a une identité cosmopolite qui se crée par cette socialisation à la mobilité qui parfois, d'ailleurs, préexiste ces mouvements migratoires. On a parfois des traditions dans certaines familles où les grands-parents, par exemple, déjà effectuaient de la mobilité dans l'ex-URSS ou ailleurs, vers l'Allemagne, les parents souvent, parfois vers l'Allemagne. Donc, tout ça participe à un état d'esprit, à un habitus, à une manière de concevoir les frontières et de peut-être pouvoir s'en servir comme ressource. En tout cas, clairement, le fait d'être mobile, ça crée une habitude de mobilité et aussi une conscience de l'espace européen, voire du monde, hein, puisque en Angleterre, une partie des Polonais qui partent en Angleterre, certains ont le projet d'en faire une étape vers les États-Unis ou le Canada.
Lorsqu'ils se définissent, ils se définissent comme européens ?
Alors, c'est un petit peu difficile de parler en ces termes. Vous savez que l'identité, c'est pas quelque chose d'exclusif. On n'est pas soit quelque chose, soit autre chose. On peut se sentir polonais, on peut se sentir européen aussi. Se définir comme européen, oui, je pense que ça fait partie aussi d'une volonté de légitimer cette mobilité-là, de dire on est européen, puisque c'est quand même des pays qui sont rentrés plus tard dans l'Union européenne et qui se sont heurtés aussi à des réticences qui ont pu être mal vécues, notamment la mise en place de ces dispositions transitoires ou le fait que la Roumanie et la Bulgarie ne soient toujours pas dans l'espace Schengen. Ils ont quand même l'impression parfois de ne pas avoir autant leur place que les pays de l'Europe des 15.
Oui, mais là, pour le coup, c'est vrai que je pensais plutôt aux Polonais, Aurore Flippo, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que ces Polonais sont relativement même plutôt très europhiles, et pour cause. D'une certaine manière, ils font partie de ces pays qui ont le plus bénéficié de l'intégration à l'Union européenne, qui ont beaucoup bénéficié des fonds européens, qui sont parvenus finalement à appuyer leur développement socio-économique sur ce projet européen. Donc on peut peut-être penser que chez ces Polonais, précisément, l'identité européenne a plus de place que chez les autres.
Oui, clairement, le fait de pouvoir soi-même expérimenter l'Europe, et c'est souvent d'ailleurs une des motivations de départ. Parfois, on part, c'est presque comme une envie de voyage. Alors, on va travailler parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un voyage d'un an à travers l'Europe, mais ça peut être une des motivations qui est derrière, découvrir l'Europe et se l'approprier.
Merci Aurore Flippo d'avoir été avec nous ce matin, sociologue, auteur de cette thèse « Les migrations de travail intereuropéennes, jeunes polonais et roumains dans les milieux ruraux au Royaume-Uni et en Espagne ». Réaction avec vous en plateau, Yves Berton-Signé, sur cette mobilité dans le marché du travail comme moteur d'identité. Et puis je rappellerai peut-être un chiffre, moi, qui m'a un tout petit peu étonné. Seuls 3% des Européens installés dans un pays de l'Union en étant nés dans un autre pays de l'Union européenne. En réalité, la mobilité intra-européenne, elle est à relativiser. Elle n'est pas si importante que ça.
Oui, elle est assez faible, sachant qu'en plus, parmi ces Européens, il y a aussi des retraités, hein, et pas seulement des actifs. Hein, les flux de retraités classiques qui partent de l'Europe du Nord et qui prennent leur retraite au soleil en Europe du Sud, y compris les Britanniques. Pourquoi elle est faible ? Parce que ce qui fonde la mobilité, c'est souvent la nécessité. Il y a beaucoup de migrants extra-européens qui peuvent venir chez nous et qui d'ailleurs sont plus nombreux que les citoyens européens qui ont décidé de bouger à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, la nécessité, elle s'est exprimée à plusieurs moments de l'histoire de la construction européenne, au moment de l'adhésion de pays qui étaient plus pauvres, hein, l'Espagne, le Portugal, mais aussi et surtout les pays d'Europe centrale et orientale. Elle n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'en réalité, il y avait plus de migrants espagnols et portugais qui, entre guillemets, fuyaient les dictatures et la pauvreté de Salazar et de Franco, et qui, une fois que leur pays est rentré dans l'Union européenne, ont plutôt eu tendance à revenir, et en tout cas, ça a plutôt tari le flux. Mais en Europe centrale et orientale, non, c'était des pays qui se sont libérés du joug soviétique, dont les ressortissants donc, sont très attachés à cette liberté. Et ce que votre reportage dit très bien, c'est que les Polonais, pour certains d'entre eux, ils peuvent être eurosceptiques, voire même pour certains europhobes. Mais si vous leur demandiez de renoncer à cette liberté de circulation, ils ne le souhaiteraient pas. Si vous leur demandiez de sortir de l'Union européenne, ils ne le souhaiteraient pas plus. Idem pour l'espace Schengen, parce que ça signifie d'abord la liberté. Dans la nécessité, ils ont pour beaucoup migrer, notamment au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni avait ouvert ses bras, il n'avait pas fait usage des clauses de sauvegarde dont disposaient les pays européens. Il y a eu un deuxième épisode plus récent sur le registre de la nécessité, c'est la crise de la zone euro. Parce que la crise de la zone euro a frappé, a mis à terre plusieurs pays, pour des raisons différentes, hein, notamment en Irlande, en Espagne, c'était plutôt une crise bancaire, crise immobilière. Il y a eu donc une migration importante des Irlandais, des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Chypriotes à un degré moindre, vers des pays comme l'Allemagne. Les Européens bougent parce qu'ils sont obligés de bouger, mais au moins ils ont cette ressource. Ils peuvent bouger, ils peuvent aller dans un autre pays que le leur au sein de l'espace économique européen. Ils peuvent tenter leur chance, même si, je veux le préciser, ils ont le droit de tenter leur chance, mais si jamais ils ne trouvent pas de travail, au bout de 3 mois, s'ils n'ont pas de ressources suffisantes pour vivre, ils doivent revenir à la case départ.
Il y a la nécessité, vous avez raison, Yves Bertoncini, et en même temps, il faut nuancer une fois encore cet aspect-là, parce qu'en réalité, quand on regarde les choses, les mobilités de travail, elles sont essentiellement dominées par ceux qui ont déjà un emploi et pas par les chômeurs.
Absolument, mais ils vont chercher une opportunité. Alors ça, c'est la nécessité d'une promotion, oui, si je puis dire, un développement de carrière. On est trader à la BNP Paribas à Paris et puis on va à Londres.
Allez, on va s'intéresser à la question de la langue. Le plurilinguisme, est-ce que c'est une chance ou un obstacle pour la construction de cette identité, cette citoyenneté européenne à laquelle on s'intéresse ce matin? Bonjour Louis-Jean Calvet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociolinguiste, professeur émérite de l'Université d'Aix-en-Provence. En Europe, 23 langues sont reconnues officiellement, mais quand on regarde les choses, il y a plus de 60 langues autochtones, minoritaires et régionales. On entend souvent cette idée selon laquelle le plurilinguisme serait l'un des piliers de l'identité européenne. Et en même temps, c'est une réalité. Mais quand on regarde les choses, finalement, la diversité linguistique de l'Europe, elle n'est pas si importante que ça. En Europe, on trouve seulement 4% des langues du monde, contre 35% en Asie, 15% en Amérique. L'Europe n'est pas le continent de la diversité linguistique comme on l'imagine souvent.
Loin s'en faut. Mais d'ailleurs, je préfère parler de densité que de diversité. Diversité n'est pas un mot très scientifique, c'est plutôt un slogan. La densité, le nombre de langues sur un territoire, effectivement, l'Europe, c'est 4% des langues du monde. Je ne parle que des langues endogènes. Hein. Il faut y ajouter des langues de migrants, bien entendu. Votre interlocuteur parlait il y a 3 minutes de migrants extra-européens. C'est à eux qu'il faut penser quand on pense au nombre de langues parlées en Europe. C'est pas 60, là, c'est 300-400 en ce moment-là. Je veux dire qu'en France, on parle le berbère, l'arabe, le soninké, le wolof, le lingala, plus que le breton ou que le basque.
Récemment, Louis-Jean Calvet, il y a un eurobaromètre qui a été consacré à la question des langues, les Européens et leurs langues, qui a été commandé par la Commission européenne. C'est une grande enquête qui a été conduite par TNS dans les 27 États membres à l'époque de l'Union européenne, en mars 2012. Les répondants, qui étaient quand même un peu plus de 26 000, étaient issus de groupes sociodémographiques variés, pour que ça soit un peu représentatif. Ils ont été interrogés en face à face à leur domicile dans leur langue maternelle. Et cette étude nous apprend que 54% des Européens sont capables de tenir une conversation dans au moins une langue supplémentaire. Alors à la fois, on se dit que c'est beaucoup, et en même temps, ça laisse 46% des Européens qui sont incapables d'échanger dans une autre langue, sans compter qu'évidemment, cette langue supplémentaire, c'est pas forcément la même. Au bilan, je vous pose la question brutalement, Louis-Jean Calvet, est-ce que le pluralisme, c'est pas un obstacle plutôt qu'une chance dans la construction de cette identité européenne? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une urgence à optimiser les compétences linguistiques des Européens?
Mais si vous pensez que c'est un obstacle, ça veut dire que vous militez pour un monolinguisme européen ?
Je ne milite pour rien du tout, je pose la question.
D'accord, non, absolument pas. Le chiffre que vous avancez est faible, vu de France, il est important, parce que les Français sont rarement bilingues. Hein. Les Français francophones de première langue n'apprennent pas souvent une autre langue ou ne tiennent pas facilement une conversation. Aller en Afrique, la majorité des gens parlent 3 ou 4 langues. Ça tient justement, on voit qu'en Afrique, il y a 30% des langues du monde, eh bien, ces langues sont peu parlées, mais pas beaucoup de locuteurs, et facilement, un enfant parle la langue de son père et la langue de sa mère, sinon pas la même langue, la langue véhiculaire du village ou de la région, et il apprend à l'école le français ou l'anglais ou le portugais. Donc là, vous avez réellement un pluralisme linguistique. C'est pas le cas de l'Europe. Le fait que la moitié des Européens puissent parler une deuxième langue, ça n'est pas étonnant. Et c'est ça, au fond, l'avenir de l'Europe. Je crois que c'est Umberto Eco qui disait que l'avenir linguistique de l'Europe, c'était la traduction, oui, mais c'est aussi le trilinguisme. C'est-à-dire que chaque petit Européen qui va à l'école puisse apprendre, outre sa langue, 2 autres langues. C'est ce qu'on essaie de faire en France.
2 autres langues, dont l'anglais ?
Oui, mais l'anglais, tout le monde l'apprendra un jour ou l'autre. Donc il faudrait plutôt mettre en première langue étrangère autre chose que l'anglais. En France, il serait intelligent d'apprendre une langue frontalière, c'est-à-dire l'espagnol dans le sud-ouest, l'italien dans le sud-est, l'allemand dans l'est, et puis l'anglais ensuite.
Alors quand on regarde la place du français dans cette étude, quand on regarde un petit peu les choses, on voit que la langue la plus fréquemment parlée par les Européens, c'est évidemment l'anglais, mais quand on regarde s'agissant du français, ceux qui se disent capables de tenir une conversation en français, on voit que les chiffres sont en baisse. On est passé de 14% à 12%. Est-ce que le combat des défenseurs de la place du poids du français en Europe sont pas en train de perdre la bataille?
Oui, mais bataille, on n'est pas en guerre, mais tout ne se passe pas en Europe. Quand vous regardez à l'échelon mondial la place des langues, vous avez vu le baromètre qu'ils nous ont mis en ligne. Le français est en 3e position, juste derrière l'espagnol, et l'anglais en première, bien entendu. Mais le français est une langue officielle dans plus de 30 pays dans le monde.
Et c'est un baromètre des langues que vous avez établi, dans lequel vous avez fait rentrer des critères autres que le nombre de locuteurs.
Et oui, parce que quand on demande aux gens quelle est la langue la plus importante, ils réfléchissent toujours en termes de combien de gens la parlent. Il n'y a pas que ça. Il y a le nombre de pays dans lesquels on les parle, il y a les flux de traduction qui sont importants, il y a le poids économique des pays dans lesquels on parle ces langues. Donc on a pris 11 facteurs, pour être précis, et on les traite statistiquement. Le français tire l'Europe vers l'Afrique, d'un point de vue. L'espagnol tire l'Europe vers l'Amérique latine. Vous voyez, ce sont des liens comme ça qui sont... Et l'anglais tire l'Europe vers le monde entier, bien entendu. Mais là, vous avez des liens entre différents pays. Alors, la francophonie, la lusophonie, pour le portugais, l'hispanophonie, ça pèse d'un poids important. Si vous prenez le nombre de pays qui ont pour langue officielle le français, l'espagnol et le portugais, ou l'italien, enfin les langues romanes, disons, ça fait plus du tiers des pays de l'ONU. Donc, vous voyez, géopolitiquement, on pourrait imaginer une politique des langues romanes qui ferait un contrepoids très important à l'anglais.
Yves Bertoncini, réaction sur cette question de linguistique en Europe, qui est évidemment essentielle.
Oui, mais on est vraiment là dans l'unité dans la diversité, si je puis dire. C'est vrai que Umberto Eco a raison de dire que la langue de l'Europe, c'est la traduction et ça va le rester. Il y a aussi un langage de facto, hein, que nos amis britanniques nous laisseront même s'ils nous quittent. C'est l'anglais, mais le vrai horizon politique, c'est en effet le trilinguisme. Le trilinguisme que soutiennent les autorités européennes, il y a des financements qui sont donnés pour ça. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs axer davantage les programmes d'échange sur les séjours linguistiques, parce que les séjours linguistiques sont plus faciles à faire, y compris pour des mineurs, ils seraient plus ouverts. C'est plus facile de le faire, y compris l'été. Le trilinguisme est aussi beaucoup soutenu par les autorités françaises parce qu'elles savent que quand on arrive à 3 langues, il y a plus de chances que le français apparaisse dans le trio. C'est quelque chose qui progresse quand même. Je trouve que l'éducation des enfants est beaucoup plus ouverte sur les langues étrangères aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Et j'en reviens simplement à un point déterminant. Dans les petits pays de l'Union européenne, dans les petits pays, si vous êtes suédois par exemple, vous apprenez plein de langues dès le départ de votre vie parce que vous vous dites, au fond, je suis dans un petit pays, je regarde le monde, si je veux un peu bouger, voyager, eh bien je vais devoir apprendre des langues, plusieurs. C'est vrai que dans des grands pays comme la France, qui a en plus la chance d'avoir une présence francophone partout dans le monde, il y a une incitation qui est moindre. Alors le pays, le pire, c'est la Grande-Bretagne, hein, l'Angleterre, parce que les Anglais se disent après tout, quelle est ma nécessité, là encore, d'apprendre une langue, étant donné qu'avec la mienne, je vais pouvoir voyager partout dans le monde. On revient au regard qu'on porte sur soi-même. Il y a déjà des pays en Europe qui pensent qu'ils sont petits. Je crois que les Européens, en général, devraient s'aviser qu'ils sont collectivement de plus en plus petits à l'échelle mondiale. Et que plus ils seront ouverts sur les autres, plus ils apprendront des langues, bien plus ils seront armés pour affronter les menaces, c'est sûr, mais aussi saisir les opportunités du monde tel qu'il se présente à nous.
Eh bien, ce sera la conclusion de notre émission. Un grand merci à vous, Louis-Jean Calvet, d'avoir été avec nous. Je rappellerai l'un de vos ouvrages, L'Europe et ses langues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et un grand merci à vous, Yves Bertoncini. Je rappellerai, directeur de l'Institut Jacques Delors. On vous entend régulièrement à ce même micro. J'aurai le plaisir, évidemment, de vous recevoir. Probablement, puisque l'Europe va continuer de nous intéresser cette semaine, bien sûr, dans Culture Monde, mais aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.